You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Au menu du journal de ce mardi 4 juin, le président américain Donald Trump est actuellement en visite officielle à Londres. C'est aujourd'hui aussi le 30e anniversaire de la répression violente par les autorités chinoises des manifestations sur la place Tiananmen. Et en France, des avocats ont lancé un appel au gouvernement pour qu'il empêche l'exécution de 11 Français condamnés à mort en Irak pour djihadisme. Donald Trump, le président des États-Unis, est actuellement à Londres avec son épouse Melania pour sa toute première visite d'État en Grande-Bretagne. Il a rencontré hier la reine Elisabeth II avec qui il a déjeuné à Buckingham Palace. Puis, ils se sont recueillis ensemble sur la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster. Mais la visite de Donald Trump ne fait pas plaisir à l'ensemble de la population. Une manifestation de très grande ampleur est prévue aujourd'hui dans les rues de Londres. Donald Trump, pour sa part, n'a pas pu se retenir de susciter la polémique puisqu'avant même d'arriver au Royaume-Uni, il avait traité le maire de Londres, Sadiq Khan, de « loser ». Sadiq Khan a répondu très vertement à ces attaques en publiant une vidéo dans laquelle il estime que Donald Trump représente l'exact opposé des valeurs londoniennes. On l'écoute.
We think diversity is not a weakness, diversity is a strength. We respect women and we think they're equal to men. We think it's important to safeguard the rights of all of us, particularly the vulnerable and the marginalized.
Le ton était heureusement pour Donald Trump bien plus diplomatique au cours du banquet qui s'est déroulé il y a quelques heures à Buckingham Palace. La reine Elisabeth a ainsi rappelé les liens d'amitié historiques entre les deux nations.
Visits by American presidents always remind us of the close and long-standing friendship between the United Kingdom and the United States. And I'm so glad that we have another opportunity to demonstrate the immense importance that both our countries attach to our relationship.
Et Donald Trump a lui fait référence au cours du même dîner à l'alliance des États-Unis et du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, une alliance qui s'inscrit dans le cadre d'une relation de confiance entre les deux pays.
The bond between our nations was forever sealed in that great crusade. As we honor our shared victory and heritage, we affirm the common values that will unite us long into the future.
Et le Premier ministre australien Scott Morrison est également à Londres en ce moment, où il est arrivé il y a quelques heures. Au programme de sa visite, des discussions sur l'économie, la sécurité et le commerce, mais aussi et surtout, il est à Londres pour assister aux cérémonies de commémoration du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y a 30 ans, jour pour jour, les autorités chinoises réprimaient violemment les manifestations sur la place Tiananmen menées par des étudiants qui réclamaient plus de démocratie. L'événement est toujours absent des livres d'histoire en Chine, mais à Hong Kong, un musée dédié à cet événement a été ouvert. Visite guidée avec Stéphane Lagarde de RFI.
102 mètres carrés dans un immeuble commercial du quartier de Mong Kok et une affluence digne du métro aux heures de pointe. En cette veille de commémoration, étudiants, journalistes et visiteurs se bousculent dans ce nouveau lieu de mémoire consacré au mouvement du 4 juin. Makoiwa, co-directeur des lieux.
Nous avons plus de 100 visiteurs par jour et aujourd'hui probablement 200. C'est très important car dans cette lutte entre la mémoire et l'oubli, le temps joue contre nous. Le gouvernement chinois interdit à son peuple d'en parler ou même de se renseigner. Nous devons garder la mémoire pour qu'il reconnaisse un jour sa faute.
Une mémoire aussi fragile que les quelques objets présentés. Un casque de moto très abîmé d'un étudiant tué par balle, une banderole, un éditorial du quotidien du peuple appelant à prendre parti contre les perturbateurs et une histoire que les moins de 20 ans, comme cette lycéenne hongkongaise, n'ont heureusement pas connue.
Cela fait partie des cours d'histoire. Une fois que nous aurons notre diplôme, nous aurons peut-être des responsabilités dans la société. Nous devons connaître cette histoire pour éviter que Hong Kong ne devienne un nouveau Pékin.
Et pour espérer durer encore quelques années, les locaux de ce nouveau musée, inauguré en avril dernier, ont été achetés grâce à un appel aux dons. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
Et on change de continent pour évoquer Le même genre de répression sanglante, cette fois à Khartoum, au Soudan, ce n'était pas il y a 30 ans, mais hier, que des militaires s'en sont pris avec une rare violence à des manifestants, causant la mort d'au moins 35 d'entre eux, d'après les rapports de médecins. Sur place, on retrouve Sébastien Lemaitre de RFI.
Même si la ville a retrouvé un calme relatif, les rues sont totalement désertes, les militaires patrouillent toujours et n'hésitent pas à s'en prendre à ceux qu'ils croisent. L'association des professionnels, organisation en pointe de la révolte, explique que le soulèvement n'est pas brisé. L'APS appelle à manifester pacifiquement, ajoutant avoir monté une équipe pour coordonner à l'échelle nationale une campagne massive de désobéissance civile. Des déclarations après donc cette attaque brutale contre le sit-in, le cœur de la révolution où chaque jour, chaque nuit, des milliers de Soudanais manifestent pacifiquement et dans une ambiance festive afin d'obtenir un gouvernement civil. Mais les soldats ont brisé dans le sang ce symbole de liberté. Ils ont tiré sur les Soudanais désarmés, brûlé leurs tentes et frappé à coups de bâton ceux qui étaient attrapés. L'assaut a créé la panique. Les protestataires ont fui comme ils pouvaient. Ils ont tenté de ramasser les blessés et les corps afin de les amener dans les hôpitaux de campagne ouverts à l'intérieur du sit-in depuis le début de la révolution ou dans d'autres établissements de santé de la ville. Mais les militaires sont allés plus loin. Ils ont encerclé des cliniques, empêchant certaines ambulances de déposer des blessés. D'autres localités comme la ville d'Omdurman, collée à Khartoum, ont aussi été prises d'assaut avec la même violence. Les gens ne vont pas rester silencieux. Ça ne va pas stopper la révolution, a réagi une Soudanaise participant au mouvement. Sébastien Lemet, Khartoum, RFI.
Et ces déchaînements de violence sont également dénoncés par la communauté internationale. Stéphane Dujarric, le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies, parle pour sa part d'une atteinte aux droits de l'homme. On l'écoute.
What is clear to us is that there was use of excessive force by the security forces on civilians. People have died. People have been injured. It is a basic human right for people to be able to demonstrate freely and peacefully, and that right needs to be respected.
On fait un détour par la France où 45 avocats emmenés par le célèbre William Bourdon viennent de publier une tribune dans la presse dans laquelle ils appellent le gouvernement français à tout faire pour empêcher l'exécution de 11 Français qui ont été condamnés à mort en Irak pour leur implication au sein de l'organisation terroriste État islamique. On fait le point sur le sujet avec Oriane Verdier de RFI.
C'est le premier groupe de Français condamnés à mort à Bagdad, mais ils ne sont potentiellement pas les derniers. Environ 450 ressortissants français seraient encore détenus par les forces kurdes syriennes. Face à l'hostilité de l'opinion publique, Paris a désigné la justice irakienne comme la meilleure alternative. Mais si la France refuse de rapatrier ses ressortissants accusés de terrorisme, il lui est devenu extrêmement difficile de justifier de déléguer leur jugement à un pays qui applique la peine de mort. Voilà deux ans que les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des procès expéditifs où les avocats commis d'office sont eux-mêmes convaincus de la culpabilité de leurs clients et où des aveux sont bien souvent signés sous la torture. Au-delà du devoir de la France envers ses propres ressortissants, ces condamnations soulèvent des questions plus profondes. Quelle responsabilité ont les pays européens dans la gestion de l'après-Daesh? Quid du besoin de justice pour les victimes de l'organisation État islamique? Comment éviter que l'histoire se répète sans un réel travail de mémoire et de réflexion par le biais de tribunaux ad hoc.
On reste en France pour parler du projet de fusion entre les groupes automobiles Renault et Fiat Chrysler qui à eux deux pourraient former le numéro 3 mondial de l'automobile. Le conseil d'administration de Renault doit se réunir aujourd'hui pour décider de la réponse qu'il va apporter aux propositions de Fiat Chrysler. Mais les salariés de Renault, eux, qu'en pensent-ils? On écoute le reportage de Pauline Glaise de RFI à la sortie de l'usine de Flins en région parisienne.
Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
Devant les portiques, un militant de la CGT distribue des tracts à tour de bras, des tracts en partie consacrés au projet de fusion qui n'a pas attiré l'attention de tout le monde.
Je pense pas que ça changera grand-chose.
Je sais pas, je suis pas au courant des choses.
Et parmi ceux qui ont un avis, il y a les inquiets.
Moi, je suis plutôt méfiant.
Hassan, 24 ans d'usine derrière lui, est plus positif.
On a eu l'alliance avec Nissan, on était pas optimiste et aujourd'hui, ça cartonne. Peut-être que ça va être une bonne chose, vu que Fiat aura besoin d'électrique chez Renault et que Renault aura besoin du haut de gamme pour vendre des voitures aux États-Unis. Ça sera un accord gagnant-gagnant, je pense.
Enthousiasme partagé par Manu Ancariste.
Ça peut être que bénéfique pour les deux, au niveau de lancement de nouveaux produits.
mais faut pas que ça soit non plus au détriment des ouvriers.
Et c'est précisément ce que craint Ali Kaya, responsable de la CGT à Flins.
Quand des capitalistes décident de s'allier comme ça, c'est pour faire encore plus de profit. Moi, je suis persuadé qu'ils vont supprimer des postes. Là, ils parlent de 5 milliards de synergies. C'est pas sur la technique qu'ils vont le faire.
La CFDT n'est pas autant inquiète. Yassine Al-Didi voit dans ses fiançailles une opportunité.
Ça nous positionnera parmi les meilleurs constructeurs mondiaux. Dans chaque chose comme cela, il reste toujours des zones d'ombre.
Il veillera en particulier à la préservation de l'emploi et à ce que la nouvelle gouvernance travaille avec les syndicats.
Et on quitte la France pour revenir en Australie où on apprend ce matin dans l'Australian Financial Review que le fisc a l'intention de renifler votre linge sale. Plus sérieusement, l'Australian Taxation Office va regarder cette année de très près les notes de pressing et les achats vestimentaires que les contribuables australiens déclarent pour obtenir des déductions fiscales. Il faut dire que la note au final est salée puisque la moitié des contribuables, soit 6 millions de personnes en Australie, font valoir ce type de dépenses, qui représente une facture au niveau national d'$1,5 milliard. Le fisc australien soupçonne donc qu'une part non négligeable de ces déductions fiscales sont frauduleuses et compte donc cette année regarder tous ces justificatifs de très près. Un point rapide sur la météo en Australie. Il fait beau à Perth avec 23 degrés, mais le temps est bien plus frais à Adélaïde, 14 degrés, à Melbourne aussi 13 degrés, à Hobart 12 degrés, à Canberra 11 degrés. À Wollongong, Sydney et Newcastle, les averses commencent enfin à se calmer avec des températures allant de 15 à 17 degrés. On a du soleil à Brisbane avec 18 degrés, 25 degrés à Cairns et 29 degrés à Darwin. On fait maintenant une courte pause, puis on retrouvera ensuite Jean-Noël Ducasse pour le magazine des sports.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.